Dieu nous a appelés pour que nous vivions dans la sainteté. Voici une conférence du Père Antoine d'Augustin, curé recteur de la basilique Notre-Dame des Victoires à Paris, une conférence enregistrée lors du festival marial de Notre-Dame du Lot en août 2022.
Bonjour à tous. Ma tâche aujourd'hui, c'est de vous parler de la sainteté, de cet appel à la sainteté que le Seigneur fait à chacun d'entre nous. Et si vous le voulez bien, en gros, on va d'abord parler du péché, parce que c'est une réalité dont il faut parler, simplement, pour pouvoir mieux en sortir, mieux vivre avec, entre guillemets. Ensuite, on parlera du don de Dieu, de ce que Dieu fait pour nous, constamment, pour nous aider justement à répondre à cet appel à la sainteté. Et puis ensuite, si vous le voulez bien, on essaiera de voir, mais tout ça succinctement, forcément en 45 minutes, ça va être un peu rapide. Quelle est la réponse de l'homme? Comment est-ce que l'homme peut répondre à ce projet de sainteté? Alors il y a une phrase dans l'Écriture, moi, qui m'a toujours étonné. C'est cette phrase qu'on peut lire en Matthieu 5, verset 48. « Soyez saints comme votre Père céleste est saint ». Vous pouvez aller voir dans l'Écriture, c'est écrit en toutes lettres, « Soyez Père, soyez saint comme votre Père céleste est saint ». Moi, si j'avais eu Jésus devant moi à ce moment-là, je l'aurais un peu agressé. « Comment tu veux, Seigneur, que je sois saint, moi ? Tu me connais, Seigneur. Comment tu veux que je sois saint ? Et tu veux que je sois saint comme le Père en plus ? » Mais t'es... Mais une fois qu'on s'est cogné à cette folie, forcément, on se pose la question, on se demande, mais est-ce que le Seigneur n'est pas en train de me dire quelque chose qui, justement, parce que ça me paraît impossible, est possible ? Est-ce que le Seigneur n'est pas en train de me dire, mais toi tout seul, de toutes les façons, c'est mort. Tu n'y arriveras pas. Dis-toi tout de suite que c'est impossible. Pour qu'ensuite mon Père puisse venir combler ton cœur. Pour qu'ensuite mon Père puisse venir t'aider à être et à vivre de ce qu'il vit. Vous voyez ? C'est-à-dire l'amour qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez ? La Trinité. C'est tout le projet de Dieu, c'est qu'on puisse vivre dès cette terre et pour l'éternité dans la Trinité. Voilà. Mais bon, il y a un problème, c'est qu'on est pécheur. Enfin, il y a un problème. Un grand-père de l'Église parlera du péché comme la bienheureuse faute. C'est qu'on est pécheur. Vous savez, Saint Jean de la Croix définit le péché d'une façon très très simple, et moi je trouve ça très très belle. C'est comme une vitre, d'accord, qui laisserait passer la lumière. Nous serions comme une vitre, vous voyez, qui laisserait passer la lumière de Dieu. Eh bien, le péché, c'est ce qui empêche de laisser passer la lumière. Voilà. C'est idiot, mais volontairement, c'est ça le péché, volontairement, on rajoute de l'huile, de la cire, de la couleur, la nôtre, ma couleur, sur la vitre. Ce qui fait que la lumière de Dieu peut pas passer comme elle veut passer. Oui, c'est ça le péché. Il y a d'autres définitions du péché. Hein. Une autre définition du péché, plus philosophique. Le péché, c'est une absence de bien. Vous prenez une feuille de papier. Vous déchirez la feuille de papier, le péché c'est ça. C'est le trou dans la feuille de papier. La fin de la feuille de papier, c'était une feuille de papier sur laquelle on peut écrire, sur laquelle on peut dessiner. Mais si vous la déchirez, si vous faites un trou dedans, la feuille de papier, elle va servir à autre chose, hein. Picasso va s'en servir. Mondrian aussi. Tous ceux qui ont fait des collages le savent, les enfants le savent très bien, hein. On peut quand même, il y a moyen de moyenner, comme on dit. Mais bon, voilà, le péché. D'autres façons de dire, pas parler du péché avec la même image, la même, c'est la musique, tout simplement. On a tous en tête peut-être un morceau de Mozart, je ne sais pas moi, le concerto pour clarinette, Köchel 622, vous connaissez par cœur. Pa 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 pa. Pa 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 pa, pas oublier le soupir. si volontairement vous faites une fausse note, si volontairement vous accélérez le mouvement lent, il y en a qui l'ont fait, ou vous le ralentissez à l'extrême, c'est plus ce que Mozart voulait dire. En fait, c'est une page d'amitié que Mozart écrit à un de ses amis franc-maçon pour lui donner de la joie, oublier le fait qu'il soit franc-maçon, c'est son ami. Alors pour lui montrer son amour, il lui écrit cette page. Voilà, concerto pour clarinette. Et c'est vrai que quand on écoute ce mouvement lent, le mouvement lent du concerto, on est rempli d'amour. Alors il y a un film qui s'en est bien servi avec Robert Redford et comment elle s'appelle, Meryl Streep, une scène extraordinaire dans la savane africaine où on voit bien qu'il est en train de se passer un truc, quoi. Voilà, le péché, c'est une absence de bien. Une autre façon encore d'en parler, imaginez, alors c'est un père de l'Église qui utilise cette image, imaginez un tireur à l'arc qui a pour but une cible. On a tous, au fond de notre cœur, une cible dans la tête. Je ne sais pas, ça peut être aimer votre épouse, aimer votre époux, ça peut être heureux, ça peut être avoir de l'humour, ça peut être réussir financièrement. Pas trop vite dire que ce genre de choses, ce sont des choses banales. Ça peut être tout simplement être aimé. Il y a un stade de l'existence où c'est super important. Avoir de la confiance en soi, ça peut être une cible. Vous voyez, faire du bien aux autres, ça peut être une cible. Lire la page que le Monseigneur nous a demandé de lire tout à l'heure, ça peut être une cible aussi. Vous voyez, on a tous en fait des cibles dans la tête. Eh ben, ces cibles, elles sont données par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous met dans le cœur des cibles justes, des bonnes cibles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Voilà une bonne cible, c'est reconnaître que nous sommes les enfants de Dieu, les enfants du Père, et que le Père nous aime, vous voyez. Mais volontairement, au lieu de vous tirer dans la cible, qui n'est pas si loin que ça, hein, il n'y a pas tant de vent que ça. Parce que je dis ça parce que souvent on dit, oui, mais moi si j'arrive pas à aimer Dieu, c'est à cause de ça. Si j'arrive pas à aimer mon mari, c'est parce que je suis hypochondriaque, c'est parce que ma mère m'a pas aimé, mon père m'a pas aimé, ou c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Vous savez, on se retrouve facilement dans le triangle de Karpman, hein, c'est-à-dire que on se situe facilement comme une victime, un bourreau ou un sauveur. Et on se réfugie dans la position du sauveur, dans la position du bourreau, dans la position de la victime. On se victimise, ça marche très très bien, la victimisation. Ouais, c'est pas de ma faute si j'ai loupé la cible. D'ailleurs, il y en a un, qui va le dire, hein, c'est Adam, quand le Seigneur lui dira, mais enfin, qu'est-ce que t'as fait? C'est pas moi, c'est elle. C'est pas moi, c'est elle. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas de ma faute, c'est la faute du Père. C'est le Père qui nous a dit que, quand vous parlez des curés ou des évêques, si l'Église va si mal, c'est à cause des évêques. Bah, que je sache, l'Église, c'est pas les évêques. Non. L'Église, c'est les baptisés. C'est l'ensemble des baptisés. Et les évêques, comme les prêtres, sont à votre service. C'est pas mon Seigneur. Évidemment, on a besoin d'eux, mais arrêtons de les... Enfin, il faut les suivre, mais... Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la cible, le cœur de la cible, c'est le Seigneur Jésus qui nous y met et qui nous y garde. Et péché, c'est volontairement tirer à côté de la cible. Parce que je pense que j'ai raison. Et que je pense qu'en faisant ça, eh bien, je vais faire du bien, je vais atteindre la cible. C'est plus Dieu qui me dit, voilà, pour viser le centre de la cible, il faut que tu t'alignes. Mais c'est moi qui décide que pour aller au centre de la cible, ben, il faut que je fasse ceci ou il faut que je fasse cela. Voyez, c'est Maurice Zindel qui dit ça. Maurice Zindel dit que le plus gros obstacle à la sainteté pour l'homme, c'est son moi. C'est inouï ce que le moi peut nous empêcher de viser simplement la cible. Vous voyez, Dieu a tout fait pour que ça marche, en fait. On est fait pour lui, on est fait pour mettre dans le mille. Et on est fait pour mettre dans le mille à tous les coups. Vous voyez ? Mais on est tellement rempli de nous-mêmes, comme dirait mon cher papa, on a tellement peur, et on reste tellement sur notre compte à soi, Vous voyez, c'est Ève, et elle trouva le fruit désirable. Mais pour moi, le fruit, il est désirable pour moi. Vous allez me dire, ouais, mais c'est de sa faute à elle, où était Adam ? Bah, Adam lui dirait, attention ma chérie, là, ce que tu vas faire, hop, 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 hop. Tu te souviens ce qu'a dit le Seigneur ? Ouais, il y a le serpent, mais le serpent, une claque, boum ! Il était où, Adam ? Pour moi, un des grands péchés d'Adam, c'est pas de pas avoir été là, quoi. D'avoir été lâche. Il s'est barré, quoi. Il était au café avec les copains. Ouais, je reviens dans 5 minutes. Tu régleras le problème. T'es forte, ma chérie ? Tu régleras le problème avec le serpent. T'as l'habitude des serpents. Et Ève se retrouve toute seule. Et vous savez pourquoi Satan attaque Ève ? Parce que Ève est le lien entre l'homme et Dieu. Je n'ai pas le temps de vous expliquer plus précisément les choses, mais faites-moi confiance. C'est pour ça qu'il attaque la femme en premier. C'est pour ça que la Sainte Vierge va être appelée la nouvelle Ève, c'est-à-dire précisément celle qui va rétablir la relation entre l'homme et Dieu. Et personnellement, c'est une toute petite parenthèse, cette relation de l'humanité avec Dieu, c'est le travail du prêtre, vous savez. C'est de vous mettre en relation avec Dieu. Et je pense que si Dieu choisit les hommes et pas les femmes pour être prêtres, c'est que vous, les femmes, vous êtes dans votre être sacerdotal, dans votre être féminin, pardon, il y a quelque chose d'éminemment sacerdotal, ontologiquement. Voilà. Je referme la parenthèse, on en reparlera si vous voulez. Bref, le péché. Dernière petite chose sur le péché. C'est une histoire qui m'a toujours amusé. Imaginez Jésus avec les apôtres qui sont sur la rive. Ils vont à Capharnaüm. Alors la mer est assez calme, il fait beau, l'air est frais, mais il faut qu'ils aillent vite parce qu'il y a plusieurs choses importantes à régler. Alors Jésus se tourne vers ses apôtres et leur dit, les gars, je veux vous faire goûter au fruit de la foi, vous allez me suivre, on va traverser le lac, mais en marchant. D'accord ? Vous me suivez ? Il y en a un autre qui le fera, hein, c'est Pierre qui le fera dans un épisode célèbre. Mais alors, ils se mettent à suivre Jésus. Super sympa. Alors d'abord, ils sont à côté de Jésus. Wow, dis donc, c'est sympa. On voit les poissons, machin, etc. Puis dis donc, ça va bien plus vite, etc., etc. Ils arrivent au milieu du lac, et au milieu du lac, Pierre. Toujours Pierre. Pierre va voir le Seigneur et lui dit, Seigneur, Seigneur, il y a un problème. On a paumé Judas. Il dit quand même, pour se perdre là, c'est pas évident, hein, parce qu'il n'y a rien. Donc il n'y a que Jésus sur le lac, c'est fait exprès. Et Pierre dit, oui, mais on a paumé Judas, regarde, il n'y a plus Judas. Judas, pouf. Jésus se retourne, effectivement, il regarde, il n'y a pas de Judas. Donc il revient en arrière. Et au bout d'un moment, ils entendent un bruit, flop, 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 flop. Et au lieu de regarder en l'air, ils regardent en bas, et ils aperçoivent que Judas, il est en train de nager. Bah, alors Jésus et Pierre, ils s'approchent de Judas et lui disent, mais dis donc Judas, pourquoi tu nages ? Et Judas, il est content, alors là, il est content, il nage dans l'eau fraîche. Il regarde le Seigneur et lui dit, mais elle est tellement bonne. Et c'est ça le péché. C'est qu'au lieu de suivre Jésus, il en fait qu'à sa tête. Et c'est vrai que c'est bon de nager dans l'eau fraîche, sauf que c'était pas l'objectif. C'était pas la finalité, c'était pas ce que Jésus voulait. Bref, le péché originel nous colle à la peau, on a besoin de s'en séparer absolument. Alors qu'est-ce que va faire le Seigneur pour ça ? Il va, bon, dès le début, hein, dès la Genèse, allez relire la Genèse, il donne des gages à l'homme, hein, parce qu'il n'arrive pas à trouver l'homme après le péché. On se cache toujours quand on a péché, vous voyez. Il n'arrive pas à retrouver l'homme. Alors il finit quand même par le retrouver, ça c'est intéressant. Et l'homme est tout nu. Et la nudité de l'homme, c'est qu'en fait, la traduction dans le texte, c'est pas exactement nu comme nous on l'entend, sans vêtements, c'est fragile. Vous voyez, l'homme, quand il voit Dieu, se retrouve dans sa grande fragilité et il n'assume pas. Il n'assume pas sa fragilité. Il n'assume pas sa nudité. Alors qu'est-ce qu'il fait l'homme ? Parce qu'il n'assume pas. Et bien, il fait ce que j'ai fait un jour avec mes petits frères, parce que j'ai trois frères. quand on avait une dizaine d'années, là, on est allé dans les vignes et puis on a vu si ça allait marcher ou pas. Donc on a pris des feuilles de vigne, on s'est mis autour du zizi. Ne faites pas cette expérience, ne la faites plus, imaginez-la, parce que moi j'ai le privilège de l'avoir fait. Mais je vais vous dire un truc, ne le répétez à personne. Donc imaginez la scène avec mes quatre frères dans la vigne, on coupe les feuilles de vigne, on se les attache, d'ailleurs gros problème pour attacher les feuilles de vigne, et ensuite gros problème pour attacher les feuilles de vigne autour de soi, quoi, vous voyez. Alors, évidemment, entre garçons, on n'est pas très très fin, hein. « Ouais, mais il t'en manque une là, je vois tes fesses, etc. » C'était rigolo, quoi. Mais croyez-moi, si vous voulez, c'est super désagréable. On ne fait pas 100 mètres avec une fille de vigne, hein, je vous le dis, moi. Même avec deux, un de mes frères, il disparaît, il réapparaît avec de la colle, il me dit « Je vais te la coller sur les fesses. » Bah, il colle la feuille de vigne, mais au bout d'un moment, ça se décolle, je ne sais pas pourquoi. Et qu'on avait un gros, gros problème. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire? C'est que quand l'homme essaye de s'habiller par lui-même, ça marche pas. Si vous essayez par vous-même de retrouver le centre de la cible, si vous essayez par vous-même de vraiment faire du bien, je dis bien par vous-même, tout seul. Il n'y a qu'à voir au moment du carême, quand on jeûne, les gens disent « Ouais, moi, je jeûne, c'est sûr, là, je vais jeûner. » Deux fois par semaine. Et au bout de la troisième semaine, on voit les paroissiens qui arrivent et qui disent « Mon père, j'ai craqué. » Je dis « Bah heureusement que t'as craqué, parce que maintenant tu vas découvrir que t'es rien, quoi, que t'es un pauvre type, et que t'as besoin de la grâce de Dieu pour jeûner. » Vous voyez, notre volonté, elle suffit pas. Alors on est là avec nos petites feuilles de vigne, et on se promène dans la vigne, et on pense que ça va le faire, mais ça le fait pas du tout. Qu'est-ce que fait Dieu, du coup? Dans l'Écriture, c'est marqué, c'est lui qui va les habiller avec de la peau. Alors, on a vu que c'était de la, on a cru que c'était de la peau de bête. Si vous allez voir le texte, c'est pas de la peau de bête, c'est de la peau. En fait, c'est la peau de la mortalité. Voilà, mon ami, tu vas te regarder dans la glace et tu vas comprendre une chose à partir d'un certain âge, c'est que tu n'en as plus pour longtemps et qu'il va falloir te poser les vraies questions. Oui, c'est ça, en gros. Si on vieillit. L'autre jour, j'ai été courir avec les jeunes. Aïe, aïe, aïe. Je pensais que j'étais vieux, mais à ce point-là... Oui, c'est pour ça. La peau de la mortalité, c'est la peau qui nous rappelle qu'on est immortel, en fait, qu'on va traverser la mort et qu'on va ressusciter. Mais au moment où Adam et Ève sortent du jardin, ben c'est pas fait. Et qu'est-ce qui n'est pas fait? C'est ce dont je voudrais vous parler tout de suite. Alors je vais être un peu rapide sur l'Ancien Testament, pardon, mais il faudrait des heures. Qu'est-ce que va faire Dieu? Il va faire les choses en deux étapes. Première étape, Ancien Testament. Deuxième étape, Nouveau Testament. Alors attention, pas de césure entre les deux. C'est-à-dire que l'Ancien Testament explique le Nouveau Testament et on ne peut comprendre le Nouveau Testament qu'avec l'Ancien Testament. Précaution d'usage, ne séparez pas trop à la française. Parce que sinon, on va plus rien comprendre. Mais toujours est-il que, dans l'Ancien Testament, le Seigneur donne la loi et les prophètes. Il dit à l'homme, attention, si tu fais ça, ça va pas le faire. Tu vas être triste. Si tu mens, tu vas être triste. Attention, David, si tu regardes trop Bethsabé, il va se passer un truc. T'inquiète pas, Seigneur, je gère. Tu gères rien du tout et ça donne Salomon. Et la mort de Uri, entre parenthèses, vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a tout pris pour lui, quoi. D'ailleurs, c'est ce que va dire Nathan. T'avais 53 millions de femmes, et toi, tu vas chercher la petite brebis de Uri, le Hittite. Autre petite parenthèse, qu'est-ce qu'elle faisait sous les murailles du roi David, en train de se baigner? On accuse David. Moi, je dis Bethsabée, elle est pécheresse aussi. Enfin bref, je referme la parenthèse. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu va donner la loi à l'homme. Il va donner aussi les prophètes. D'accord? Des gens qui vont expliquer ce que le Seigneur est en train d'accomplir. C'est ça un prophète, c'est pas quelqu'un qui dit l'avenir. C'est quelqu'un qui dit à David, c'est pas bien ce que t'as fait. Et pour ça, tu devrais mourir. Vous avez la fin de l'histoire, c'est que David ne va pas mourir, vous savez, et même la génération va passer, ça c'est le truc incroyable, va passer par le fruit du péché. La génération du Christ va passer par le fruit du péché. Enfin bref. Donc les prophètes nous disent ce que Dieu fait. Ce qui fait. Si vous voulez savoir quelles sont les méthodes de Dieu, eh bien lisez les prophètes. Parce que là, vous allez voir, Dieu fait souvent quand même assez pareil. C'est vrai qu'il s'adapte, qu'il est intelligent, mais si vous lisez les prophètes, vous verrez comment Dieu a l'habitude d'agir. Voilà. J'entre pas dans les détails parce que j'ai trop peu de temps, mais notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Et voilà, la loi. Donc, et alors on retrouve ça exactement, la transfiguration. Quand Jésus va être transfiguré pour dire aux apôtres « Je vais mourir, vous inquiétez pas, je vais ressusciter », c'est ça le but de la transfiguration, mais aussi de leur dire « Vous allez mourir, mais vous inquiétez pas, vous ressusciterez », c'est ça le but de la transfiguration, j'insiste. Et bien, qui y a à la transfiguration ? Moïse et Élie, la loi et les prophètes. Ça va ? Donc, l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, on peut très bien devenir un très grand saint en suivant simplement la loi et les prophètes. Voilà. En aimant, on peut être sauvé. C'est important de dire ça, hein, parce qu'après je vais vous parler de la grâce, je vais vous parler de l'action de Jésus, etc., etc. Mais c'est très important de savoir que ce qui nous sauve, c'est d'aimer. Je vais être un petit peu iconoclaste et j'espère que vous me pardonnerez, mais c'est une phrase qui est importante, je pense, que nous ayons de temps en temps quand même dans la mémoire. Et c'est pas pour que vous n'alliez pas à la messe, surtout un dimanche. Mais vous voyez, Jésus n'a jamais dit « Allez à la messe les uns les autres ». Non, mais c'est vrai, il a dit « Aimez-vous les uns les autres ». C'est important, ça. Ce qui est important, voilà, c'est d'aimer, c'est de se donner. Hein, c'est ce que disait Monseigneur Barbarin tout à l'heure. On va y revenir. Mais voilà. Et ça, eh bien, la loi de l'amour, on la voit décrite, on la voit expliquée. On voit comment est-ce que le Père très saint nous écoute, nous encourage, nous, à travers tout l'Ancien Testament. Voilà. Mais Dieu se rend compte d'une chose, c'est que agir par l'extérieur, c'est bien, mais s'il pouvait agir de l'intérieur de l'homme, ce serait quand même beaucoup mieux. Parce que l'homme continue à n'en faire qu'à sa tête. Vous savez, l'homme, c'est un peu comme les poules. Hein. Tu lui dis d'aller à droite, elle va à gauche. Vous avez déjà poursuivi des poules pour essayer de les attraper ? Il n'y a qu'un moyen pour les attraper, c'est de les endormir. Enfin, je veux dire, c'est de faire en sorte que... Mais l'homme continue à pécher. Et comme Dieu aime l'homme, comme Dieu veut absolument que l'homme réintègre la Trinité et vive la plénitude de l'amour, Dieu qui est malin, il va ruser. Il va nous donner sa présence en nous. Et ça, c'est un truc de fou. Eric, est-ce que tu veux bien venir et te mettre debout là ? Je vais vous montrer un truc incroyable, un truc mais de fou, extraordinaire. Non, mets-toi au milieu là, debout. Voilà. Ne regarde pas, regarde les gens. Et vous voyez quoi ? Eric, mais vous avez du mou pour chat dans les yeux ou quoi ? Depuis le baptême, t'es baptisé ? Depuis le baptême, depuis son baptême, il a la Trinité en lui. Là, t'as le Père, le Fils et le Saint-Esprit, là. On réalise ou pas ? Mais il faut absolument qu'on réalise. Et ça, c'est une grande ruse de Dieu. C'est une très grande ruse de Dieu, ça, par le baptême. Et il le fait tout de suite d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, quand il va commencer sa mission, il se fait baptiser, lui-même, Jésus. Alors pas du baptême dont on va être baptisé, mais s'il se fait baptiser, c'est simplement pour dire « faites-le ». Oui, c'est une flèche, c'est une direction. Le Père nous met une direction. Il nous dit, vous voulez être des saints ? Allez, prenez cette direction, soyez baptisés. Qu'est-ce qui se passe dans le baptême ? Eh bien, Dieu vient dans le pauvre type. Parce que c'est un pauvre type. Non, mais c'est pas très compliqué à voir, il n'y a pas de cheveux. Non, mais c'est gris. Non, puis c'est pas très grand. Mais il y a la Trinité. Et la Trinité agit dans notre personne. Et c'est ça que je voudrais vous montrer maintenant. Ben, tu vas rester pas loin parce que j'ai peut-être une idée. Donc, Dieu, grâce au sacrifice du Christ, mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts, Dieu, par le baptême, va venir à l'intérieur de nous. Et comme Monseigneur Barbarin nous disait tout à l'heure, Dieu, à l'intérieur de nous, il ne reste pas les bras croisés, si vous voulez. Il nous donne trois forces, trois puissances, mais extrêmement puissantes et extrêmement fortes. La première force qu'il nous donne, c'est la charité, c'est la puissance de l'amour. Alors attention, il faut bien qu'on s'entende sur une chose. Qu'est-ce que c'est que la charité ? La charité, c'est pas le sentiment amoureux. Je dis ça pour les amoureux qui sont là, parce que je vois qu'il y a pas mal d'amoureux. Vous allez me dire, mais si je suis tout seul, je suis pas amoureux, etc. C'est quoi un amoureux ? C'est quelqu'un qui aime l'autre, mais pour lui. D'accord ? Quand vous dites à votre femme ou à votre mari, mon chéri qui est à New York, mon chéri, tu me manques beaucoup, oui vraiment tu me manques sans toi, etc. Alors là vous avez des mots incroyables, mais il manque à qui ? Toi t'as pas le droit de répondre. Je l'ai préparé au mariage, c'est pour ça. Il manque à qui ? À qui est-ce que votre amoureux, votre amoureuse manque ? Quand vous dites « tu me manques », à qui est-ce qu'il manque ? Voilà. Et la personne la plus importante, là, c'est qui ? C'est ma gueule. C'est moi. Tu me manques. On pourrait se réjouir de ce que l'autre est en train d'accomplir. Certes, c'est loin. Certes, ça crée une douleur. Mais on pourrait se réjouir. Mais profite bien de ces soirées avec tes amis. Profite bien de ce soleil, de cette piscine, de ce... Profite bien. Votre épouse qui vous dit « Ah, mon chéri, c'est vraiment fantastique, etc. On a été chez les Duchemol et ils nous ont prêté leur piscine, on s'est baigné, tu vois, Judas. » Et vous êtes de l'autre côté du téléphone, et vous êtes à Paris, 500 degrés à l'ombre, et plein de Parisiens, des gens méchants, vous savez, les Parisiens, c'est des gens méchants, ils regardent pas... L'amour, c'est quoi ? L'amour, c'est se donner à l'autre pour le bien de l'autre. Et ça n'est possible qu'à une condition, c'est que si l'Esprit Saint, l'un de la Trinité, ou Jésus, ou le Père, vous disent comment faire. Si l'Esprit Saint ne vous dit pas comment faire, si l'Esprit Saint ne vous pulse pas, ne vous pousse pas, si l'Esprit Saint n'ouvre pas vos yeux, si l'Esprit Saint ne vous donne pas sa force, les amis, il se passera rien. Ou alors plutôt, il se passera l'opposé. C'est-à-dire que vous allez falsifier ce que vous croyez être l'amour. Vous allez construire une espèce de truc qui vous ressemble, mais qui n'a rien à voir avec le projet que Dieu avait pour vous. Vous voyez, aimer, c'est pas non plus être généreux. Parce qu'on croise comme ça de temps en temps des gens, vous savez, dès qu'ils vous croisent, ils vous font un chèque de 500 000 euros. Quoi. Moi, j'avais un oncle qui était comme ça. Dès que j'allais chez lui, il me donnait des costumes fantastiques, des trucs fantastiques. des costumes vraiment magnifiques. Sauf qu'il mesurait 1m74 et moi, je mesurais 1m85. Voilà. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de générosité, mais pas beaucoup de charité à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, il se faisait plaisir en me donnant ses costumes. Oncle Guy, si vous m'entendez, il y a longtemps que vous avez changé. Vous voyez, la générosité, c'est bien, Mais la charité, c'est mieux. Et l'être, la personne charitable, eh bien, elle va essayer de voir ce dont l'autre a besoin. Et la vérité de la vérité, c'est qu'on ne le sait pas. C'est qu'on est aveugle. Tous, on est des aveugles. Tous. Seul l'Esprit Saint va nous montrer ce qu'il faut faire, quand il faut le faire. Et parfois, il faut parler, et parfois, il faut se taire. Et parfois, il faut être présent, et parfois, il faut disparaître. Et parfois, il faut agir, et parfois, il faut surtout rien faire. Et tout ça, c'est l'Esprit Saint qui va vous l'expliquer. Comment est-ce qu'on fait ? Ben, en priant l'Esprit Saint. Alors, la particularité de l'Esprit Saint, c'est que non seulement il agit de façon permanente à l'intérieur de nous, hein, c'est ce qu'on appelle la grâce habituelle, mais l'Esprit Saint, il agit aussi de façon ponctuelle, dès que vous l'appelez, en fonction des circonstances. Voilà. Seigneur, j'ai une réunion avec un tel dans 2 minutes, comment est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je vais croiser une telle qui m'énerve. Voilà. Et à ce moment-là, vous priez l'Esprit Saint. Oui. Et l'Esprit Saint, à chaque fois, va vous adapter à la situation et va vous donner d'aimer. Est-ce que ça va se faire du premier coup ? Ben, bien sûr que non, ce serait trop facile. Sauf si on est devenu très souple à l'action de l'Esprit Saint. Mais souvent, il faut un peu de temps. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on est sur la terre. On est sur la terre pour se perfectionner en amour. On n'est pas sur la terre pour se faire plaisir. Et le vrai bonheur, c'est ça. C'est se perfectionner dans l'amour. Alors, je ne peux pas ne pas terminer ce petit passage sur la charité en parlant de Thérèse de l'Enfant Jésus. Parce que souvent, on se fait une montagne des choses et on se dit, mais mon Dieu, je ne vais jamais y arriver. Comment ça ? Aimer Christophe ? Oh là 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 là, mon père, si vous saviez. Mais parce qu'on est tous pareils, ma chère Ayana, on est tous pareils. Aimer mon Seigneur, aimer mon évêque, oh là 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 là. J'aurais tellement aimé qu'il soit comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ci. On est encore centrés sur soi-même. Mais j'aurais tellement aimé que mon mari mesure 10 cm de plus. J'aurais tellement aimé qu'il soit intelligent. J'aurais tellement aimé qu'il gagne plus d'argent. Et ainsi de suite, vous voyez, on est comme ça, on est centrés sur nous. Voilà. Donc l'Esprit Saint, ben, la première chose qu'il va faire, l'Esprit Saint, c'est qu'il va venir casser nos rêves et qu'il va nous apprendre à faire les choses pour de Dieu et pas pour Dieu. Il va nous apprendre à faire les choses de Dieu et pas pour Dieu. Alors évidemment, vous voyez, vous avez senti, j'ai pas besoin de le préciser, que effectivement, comme a dit Monseigneur Barbarin tout à l'heure, c'est fatigant. C'est vrai, c'est fatigant de pas être parfait, quoi. C'est fatigant de pas comprendre, c'est fatigant donc il faut tout le temps remettre le truc sur le. Faut toujours. Voilà, vous avez compris. Le deuxième don, c'est le don de la foi. Vous pouvez arrêter les cloches. Le deuxième don, c'est le don de la foi. Alors, qu'est-ce que c'est que le don de la foi ? La foi, c'est précisément, évidemment, que la charité va nous rendre saints. Mais j'ai envie de dire que la foi, c'est l'outil particulier du Seigneur pour mettre en œuvre la sainteté à l'intérieur de nous. Alors, comment est-ce que ça marche ? Là, il faudrait que Eric revienne. Imaginez que Eric, c'est Dieu. Ça va ? Il faut un peu d'imagination, mais... Donc, en tous les cas, ce dont vous pouvez être sûr, c'est que comme Dieu est une personne, Dieu a une mémoire, une volonté et une intelligence. Ça va ? Lui, il a une mémoire, une volonté et une intelligence. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Dans un premier temps, j'entends parler de Dieu. Et c'est pour ça que le grand saint Paul nous dit qu'on se convertit par les oreilles. Vous entendez parler de Dieu parce que Christophe, dans son truc, vous aura sa chaîne YouTube, vous aura parlé de Dieu, parce que la sœur vous aura parlé de Dieu, parce que vous serez venu au festival marial et vous aurez, voilà, vous en aurez parlé à des amis, etc. Vous entendez. Donc vous vous rapprochez. Ça va ?
Et ensuite, ce qui se passe, c'est que vous allez réfléchir. Deuxième étape, vous allez réfléchir. Et vous allez tourner autour de Dieu et vous allez vous dire, oh là là, est-ce que ça ressemble à ce qu'on m'a dit? Est-ce que ça ressemble à ce que je voudrais? Est-ce que ça ressemble à ce que je comprends? Et alors on tourne autour de Dieu, mais longtemps. Et je pense que la plupart des êtres humains le font, ça. On se dit, mais si Dieu est Dieu, pourquoi il y a la souffrance? Si Dieu est Dieu, mais pourquoi je ne suis pas plus intelligent? Si Dieu est Dieu, mais pourquoi je ne suis pas plus saint tout de suite? Mais si Dieu est Dieu, et puis ensuite vous pouvez raconter ce que vous voulez, pourquoi ça ne marche pas mieux? Pourquoi... Bref, on tourne autour de Dieu et avec notre intelligence, on essaie de comprendre. Et Thomas d'Aquin dit que on peut très bien arriver à connaître Dieu par l'intelligence. Et il rajoute une petite phrase géniale, terrible, mais on met très longtemps. C'est-à-dire que par l'intelligence, c'est possible, mais c'est long. Alors il y a un autre moyen qui est plus rapide, qui, comme Monseigneur Barbarin l'a dit tout à l'heure, demande du travail, un travail intellectuel. Voilà. C'est un acte qui va vous donner Dieu directement. À partir du moment où vous avez entendu parler de Dieu, que vous avez réfléchi et qu'avec ce que vous avez compris de Dieu, vous acceptez d'être en relation avec lui, je dis bien avec ce que vous avez compris de Dieu. N'attendez pas de tout comprendre de Dieu pour pouvoir rencontrer Dieu. Mais avec ce que vous avez compris de Dieu, vous pouvez toucher Dieu. Il y a une femme qui le fait, c'est toujours les femmes qui font les choses extraordinaires dans la Bible, entre autres. C'est, vous savez, cette femme qui perdait du sang, la femme hémorroïs, elle perdait la vie. Elle voit passer Jésus. Vous vous souvenez de ce qu'elle fait? Elle touche le manteau. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il la guérit. Et ce que je trouve génial dans cet épisode, c'est que la femme n'est pas en train de dire à Jésus, « Jésus, s'il te plaît, est-ce que tu peux me guérir ?» Vous savez, il y a pas mal de lépreux, des aveugles, des machins, ils sont comme ça, ils sont dans la supplication. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. D'ailleurs, l'évangile d'aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Mais là, elle vole la grâce. Ah, ça, c'est génial. C'est-à-dire que Jésus est en train de passer, elle court derrière, poup, 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 elle est un petit peu, hop, elle touche le manteau et elle repart dans l'autre sens. Qui m'a touché? C'est ce que dit Jésus. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous le touchez, il y a quelque chose qui part de Jésus. Qui part de Jésus. Et qui ne dépend pas de la volonté de Jésus. Mais qui dépend de la volonté de celui qui le touche. C'est-à-dire de nous. Relisez ce passage de l'Écriture, la femme hémorroïs. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle touche Dieu. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Téléchargement des fichiers. Non mais c'est vrai, hein? Téléchargement des fichiers. Donc en ce qui concerne le Père Antoine, il faut qu'il soit longtemps devant le Seigneur le matin. Téléchargement des fichiers, mise à jour, download. Hop. On s'arrête et après on va faire ses affaires. Et alors c'est vrai que du coup, on est un peu plus... peut-être il y a des nouvelles fiches, hop, 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 et puis on peut s'adapter et puis parler de Dieu aux gens, etc. Tout. Et puis on se rend compte au bout d'un moment qu'en fait, il manque une fiche. Par exemple, en ce qui me concerne, celle de l'humilité. Hop, hop, tchac, téléchargement. Et Monseigneur a raison, c'est un vrai travail. Se faire télécharger les fichiers de Dieu, c'est un truc quand même. Non, mais c'est vrai, parce que Dieu, il a un problème. C'est qu'il va nous charger quelque chose qui vient de sa surnature dans notre nature mortelle. Et ça, c'est pas un problème que pour nous. C'est aussi un problème pour lui. Mais comment je vais faire pour lui faire comprendre, pour lui donner ça? Parce que c'est pas le tout de nous donner les fiches, il faut encore qu'on les lise. Vous savez, c'est comme à l'école. Il faut encore qu'on lui obéisse au Seigneur. Alors, la deuxième chose, c'est la foi. Vous voyez, la foi, c'est une capacité de contact avec Dieu, c'est une adhésion avec Dieu dont je me sais aimé. tout simplement. Et la prière, c'est ça. C'est ce qui se passe dans la prière, tout simplement. Alors, si vous voulez qu'il se passe quelque chose ici, pendant ces 5 jours, vous n'avez pas besoin d'aller aux ateliers, vous n'avez pas besoin d'aller à la messe, vous n'avez pas besoin d'écouter les conférences, vous n'avez pas besoin d'être gentil avec les gens, vous pouvez aller dans la montagne et poser des actes de foi, je vous assure, il se passera quelque chose. Ne faites pas ce que je viens de dire. Mais voilà la foi qui va me permettre de recevoir le bonum diffusium, c'est-à-dire tous les bienfaits de Dieu vont m'appartenir. Et l'Écriture le dit quand on entend « Il est mon héritage ». Il est mon héritage. Et du coup, on comprend que le fils prodigue, vous savez, vous vous souvenez de l'histoire du fils prodigue, vous connaissez l'histoire par cœur. Il va voir son père et lui demande son héritage. Et il lui demande sa part. Alors c'est un peu comme si il pensait que le père allait mourir bientôt. Parenthèse. Mais le truc idiot, c'est qu'il lui demande que sa part. Il avait tout le gâteau et il demande que la part. Donne-moi ma part. Moi, je pense qu'à ce moment-là, Dieu, il a dû être mais profondément triste, quoi. Mais t'es crétin, quoi. Pourquoi tu me demandes que ma part? Et Dieu va n'avoir de cesse que de faire comprendre à l'homme mais qu'il est fait pour tout. Qu'il n'est pas fait pour vivre qu'avec une part, mais avec tout l'ensemble du gâteau. Et que finalement, peut-être qu'un des plus grands péchés de l'homme, et on va le voir avec le deuxième fils, mais c'est qu'il ne profite pas assez du gâteau. Le deuxième fils, il ne profite pas assez du gâteau. Vous voyez, on a du mal parfois à rentrer dans la louange, on a du mal à lever les bras, on a du mal à rendre moi le premier, à rendre gloire à Dieu. Mais ça, c'est clair, c'est que souvent on a du mal à profiter du gâteau. On est là et on pense encore à nos petites affaires, on pense encore « Ah, il y a Madame Duchemol qui est au deuxième rang, qui va me regarder, qui va penser que... Ah, j'ai toujours dit à mon mari que j'étais une introvertie. » Alors, si jamais je levais les bras... À ce moment-là, on prend sa part, vous voyez. Merci Eric. La foi, c'est le deuxième don que le Seigneur nous donne par notre baptême, et c'est ce qui nous permet d'être saints. C'est comme ça que du coup, le Seigneur va nous rendre saints, aussi parfaits que lui. À chaque acte de foi, du coup, vous avez bien compris que le Seigneur nous sanctifie. Et la troisième chose, qui est une vertu, la vertu de l'espérance. Mon Seigneur nous disait tout à l'heure que la vertu de l'espérance, c'était de rester sous la lumière, vous voyez. Alors, moi j'ai une autre image, parce que je suis parisien, mais qui concerne aussi la lumière. Mais parfois, les Parisiens, vous savez, on a des... Imaginez que vous rentrez dans le tunnel de Saint-Cloud. Qui est-ce qui connaît ici le tunnel de Saint-Cloud? Voilà. Aux heures de pointe, vous me suivez? Avec 4 enfants dans la voiture, vous me suivez? Vous êtes au milieu du tunnel. Au milieu. Au milieu du tunnel. Ça marche? À ce moment-là, les feux de la voiture s'éteignent. De toutes les voitures. Les feux... du tunnel s'éteigne. Vous faites quoi? C'est quoi le réflexe? Tout de suite. Que vous soyez un papa et une maman, ça marche dans les deux sens. Vous allez tout de suite faire un truc. Vous allez vous rappeler où est le bout le plus près. Non? Vous allez dire, oh là là, est-ce que j'étais à la moitié? Est-ce que j'étais machin? Donc le... La sortie la plus proche, c'est par là. C'est-à-dire que vous allez faire fonctionner votre mémoire, et par votre mémoire, grâce à votre mémoire, vous allez rester sous la lumière. Je sais qu'en faisant ça, Dieu me fait du bien. D'accord ? C'est ce que fait Thérèse de l'Enfant Jésus, un soir de Noël. Son papa va la blesser terriblement. Parce que son papa va dire, ouf ! Il est crevé, vous passez par messe de minuit, chez les Martins, c'est messe de minuit, hein. Messe de minuit à minuit. Et les curés de l'époque, c'était messe de minuit à rallonge. Donc tu sortais de là à 1h du matin, quoi, 1h30 du matin, 2h du matin, facile. Et monsieur Martin, il est crevé. Et il dit à la cantonade, ouf, c'est le dernier Noël. Parce que dans la famille Martin, quand on avait 14 ans, eh ben, après, on ne fêtait plus les cadeaux. Et du coup, il est content que ça soit la dernière fois qu'on fête le Noël de Thérèse. Thérèse montre 4 à 4 les escaliers, elle entend cette phrase, et elle aurait dû se mettre à pleurer, et ensuite pleurer d'avoir pleuré, et ensuite devenir insupportable pour toute la famille jusqu'à la fin de la nuit. Non, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle va poser un acte d'espérance. Elle va se rappeler que le Seigneur peut lui accorder quelque chose qu'elle espère. Donc elle dit au Seigneur, mais sauve-moi! Et tout de suite, le Seigneur la guérit à l'instant. Et elle est guérie. Et elle le dit, de ce jour-là, je faisais des bonds de géant. De l'espérance, c'est quoi? C'est demander à Dieu ce qu'on n'a pas encore. Tout simplement. Vous n'avez pas encore une foi suffisante dans l'Eucharistie, demandez-le à Dieu. Du coup, Dieu va vous l'obtenir. Vous allez l'obtenir. Ce que vous avez demandé, vous allez voir, c'est facile ça. Dieu, il donne très très facilement, beaucoup plus facilement qu'on l'imagine. Vous allez obtenir ce que vous avez demandé. D'ailleurs, faites le mémoire de ce que vous avez obtenu et que vous avez déjà demandé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a obtenu ce qu'on a demandé, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Comment? Merci! Ah non, ça c'est les enfants bien élevés, c'est les enfants qui sont déjà devenus des grandes personnes. Je veux dire, merci, ça c'est... Merci mon père, merci Ayana, il me reste 2 minutes, je sais. 5. Non, un enfant, un vrai de vrai, vous pouvez tester... Et alors? Un enfant, normalement, il dit encore! Non! Vous donnez un bonbon, il dit encore. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et bien, dans la vie spirituelle, c'est pareil. L'espérance, c'est une vertu de marche. Pourquoi? Qui nous donne la sainteté. Ben parce que vous demandez quelque chose à Dieu qui vous le donne. Du coup, vous dites merci Seigneur, vous lui dites encore. Vous l'obtenez. Ben oui. Si c'est bon pour vous, le bon Dieu vous le donne. Donc vous dites, ouais, génial, j'ai le charisme de louange. Vous dites, là j'aimerais bien avoir le charisme de charité pour ma femme, là ce matin. Le Seigneur vous l'obtient. Là vous dites, oh merde, ça marche. Bon, bah alors du coup, j'aimerais bien le charisme de l'intelligence pour comprendre mon fils de 15 ans. Toc, encore. Et puis alors là, le sermon arrive. Ça marche pas ici, parce qu'ici tout le monde est intelligent et se fait comprendre. J'aimerais bien comprendre le sermon du curé. Et vous l'obtenez. Et vous voyez pourquoi on devient des saints petit à petit? Parce que le Seigneur, il va agir de l'intérieur de nous-mêmes par la foi, l'espérance et la charité. Alors vous voyez que il me resterait théoriquement à vous dire quelle est la part de l'homme dans cette histoire. Mais la part de l'homme, elle est toute simple, c'est de l'accepter. La part de l'homme, c'est de consentir. La part de l'homme, c'est de poser des actes de foi, de poser des actes d'espérance et de poser des actes d'amour. Et c'est vrai, mon Seigneur a tellement raison. C'est fatigant d'aimer, mais oui, mais ça rend heureux aussi. On est content d'avoir aimé. Oui, c'est fatigant, mais bon, on est fatigué, mais on est heureux en même temps. C'est vrai que avoir la foi, ça demande du travail. Un travail intellectuel, et je sais que certains d'entre nous se disent, mais moi je ne suis pas du tout un intellectuel. Mais oui, mais si on ne le fait pas, Dieu a tellement à nous donner. Comment est-ce qu'il va faire pour nous donner ce qu'il veut nous donner si on refuse le moyen de la foi? Et cette espérance qui est la marque des saints et qui nous fait avancer. Vraiment que le Seigneur, pendant cette session, eh bien vous aide chacun, nous aide chacun à grandir dans la sainteté. Mais vous avez bien compris, hein, pas tant par les efforts qu'on fera, qu'en acceptant que Dieu agisse en moi. C'est ça un saint. Un saint, c'est quelqu'un qui accepte que Dieu agisse en lui. Demandons cette grâce au Seigneur, particulièrement à la Sainte Vierge. Une grâce que tout être humain peut recevoir, même les plus grands pécheurs. Amen.
Dieu nous a appelés pour que nous vivions dans la sainteté. Vous venez de suivre une conférence du Père Antoine d'Augustin. curé et recteur de la basilique Notre-Dame des Victoires à Paris, conférence enregistrée lors du festival marial de Notre-Dame du Lot en août 2022.